Bonjour à chacun. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous aurons, je l'espère, un petit moment de prière tout à l'heure pour aider ceux qui ont du mal. Ceux qui ont du mal dans leur foi, ceux qui ont du mal dans leur marche avec Dieu. Il peut arriver que l'ennemi, qui s'appelle le tentateur, puisse piéger des chrétiens. Et ces chrétiens-là se trouvent inutiles. Je voudrais faire avec vous trois lectures, s'il vous plaît. Écoutez bien, nous n'apporterons pas ce matin un enseignement sur le repos. Pourquoi ? Eh bien parce que je pense vraiment que plusieurs parmi vous ont besoin d'entendre ce que vous allez partager avec moi. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 2, il y a une question. C'est au verset 20, une question que j'ai souvent évoquée dans l'histoire du service. C'est vrai que Jérémie vous a rappelé que mardi, j'aimerais avoir avec nous tous ceux qui sont pleinement conscients de l'importance de s'investir, de s'impliquer, de s'engager d'une façon joyeuse dans l'Église. Et il me semble qu'il y a des choses à partager, on ne le fait pas, on pourrait le faire très souvent, on le fait très 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 rarement. Et je voudrais inviter tous ceux qui ont à cœur l'œuvre de Dieu, vraiment à partager certaines choses pour pouvoir amener plus loin l'Église et surtout que les pécheurs soient au bénéfice de cette ferveur. Dans Jacques au chapitre 2, il y a une question. Vous savez que les questions dans la Bible, Dieu les pose, c'est Dieu qui les pose dans un seul but, c'est qu'on y réponde. Ça s'appelle la politesse. Je ne sais pas si vous êtes choqué parfois par des gens qui ne sont pas polis. Ça ne vous arrive pas de... Moi, je suis étonné. Cette semaine, j'étais acheté du pain. Le gars devant moi, qui avait à peu près mon âge, n'a même pas dit bonjour à la fille. Il a regardé. Il a fait « comme ça. Mais moi, je vous assure, j'ai été triste. Il a payé sa baguette. Il est parti. Même pas bonjour, rien. Et je crois que s'il y a bien une chose que nous découvrons lorsque nous devenons chrétiens, c'est des choses simples. La politesse, ce sont des choses simples. Répondre à une question, ça s'appelle la politesse. Jésus pose plein de questions. Jacques chapitre 2, verset 20. « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ?» Et je vous rappelle que c'est une question. Deuxième lecture, Luc, chapitre 9. Luc, chapitre 9. C'était, si vous regardez le verset 21, c'était le temps de la fin de Jésus, puisqu'il est dit que le temps où il devait être enlevé du monde approchait. Luc 9, 51, c'est pour vous montrer ce qui s'est passé au moment où ce temps approchait. Luc 9, 46. Luc, chapitre 9. Verset 46. Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui et leur dit, « Quiconque reçoit mon nom, ce petit enfant, me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous, c'est celui-là qui est le plus grand. » Notre lecture dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, s'il vous plaît. Jean, chapitre 13, verset 1er. Évangile de Jean, chapitre 13. Nous allons lire jusqu'au verset 17. C'est un texte que vous avez peut-être souvent lu. Relisez-le. Relisez-le, le Seigneur veut nous parler au travers. Jean chapitre 13. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant. » Mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais, tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen. » Mardi, nous avons pris un texte, le psaume premier, parce que le psaume premier commence avec le mot « heureux » et j'avais expliqué dans le cadre du repos que Jésus a dit « recevez mes instructions et vous trouverez le repos ». Nous avons pris le psaume premier et nous avons vu quelques instructions afin d'être heureux. Un homme heureux ne marche pas selon le conseil des méchants. Voilà. Il y a des choses à ne pas faire, il y a des choses à faire. Dans ce texte, il y a le secret du bonheur, c'est de savoir certaines choses et de le faire. Il y a des paraboles dans l'Évangile qui nous permettent de réfléchir, car je crois qu'il est important de réfléchir lorsqu'on partage la parole de Dieu, lorsqu'on prend la Sainte Cène, lorsqu'on écoute un beau cantique sur la croix comme ça a été le cas, on réfléchit, on se réjouit, on loue Dieu, mais en même temps, cela nous permet de réfléchir. La parabole des talents, le Seigneur nous l'a donnée pour réfléchir. Vous savez que dans la parabole des talents, le Seigneur s'adresse à ce troisième serviteur qui a enterré le talent, et cet homme est taxé de méchant, de paresseux et d'inutile. C'est terrible le verdict que Jésus présente à cet homme, un homme qui est taxé de méchant, d'inutile et de paresseux. Je ne sais pas si ce que vous aimeriez, entendre de la part du Seigneur, lorsque vous passerez devant lui, tu as été quelqu'un de méchant, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de communion avec moi, quelqu'un qui est inutile, c'est quelque chose de terrible, de passer sur la terre et d'être inutile, et d'être paresseux. Et pourtant, c'est bien dit au début, chacun avait reçu selon sa capacité. La capacité, j'ai regardé dans le dictionnaire, capacité, puissance de faire quelque chose. Un radiateur a une capacité calorifique. Un navire a une capacité de charger. Enfin, il y a plein d'exemples. Ça nous explique que nous avons tous une capacité. Tous. Même les plus démunis, qui se sentiraient le plus démunis, même ceux qui se sentiraient faibles. Croyez-moi, Dieu nous a donné à chacun des capacités. Je voulais exprimer ce matin, j'avais donné comme titre à ma prédication « La croix et le linge ». Et puis je me suis ravisé et j'ai donné que comme titre « Le linge » parce qu'on n'aura pas le temps de parler de la croix. La croix représentera toujours le symbole de la soumission. Vous le savez, on vous l'a dit depuis votre conversion, avant même votre conversion, vous avez appris par la parole de Dieu, par l'œuvre de Jésus-Christ, que la foi, la croix est toujours le symbole de la soumission. Mais la soumission. Si on parlait de la soumission, cette semaine, je me suis appliqué à réfléchir sur tout ce qui est dit au nom de la soumission. On peut en dire des choses pour la soumission. Vous pouvez en dire des choses. C'est vrai ou c'est pas vrai, hein? La soumission. Regardez toutes les religions, ce qu'elles ont pu faire aux gens au nom de la soumission. Imaginez-vous comment on peut manipuler les gens, les conditionner de telle sorte qu'ils sont convaincus qu'ils obéissent à Dieu parce qu'on leur a demandé de se soumettre. La soumission, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un grand sujet. J'ai enlevé ce titre, la croix et le linge, et je n'ai appelé cette prédication que le linge. Pourquoi ? Parce que je n'aurai pas le temps de parler de la soumission. La soumission, vous pouvez la présenter de telle sorte que les gens vivent dans la servitude. C'est terrible la façon dont on peut manipuler les gens. Pourquoi y a-t-il tant de sectes, tant de religions ? Parce qu'on a utiliser certains textes bibliques, d'autres livres religieux, pour amener les gens à la servitude. Il n'y a rien de tel pour détruire, manipuler les gens, que d'un enseignement faux sur la soumission. Et c'est un sujet sérieux, parce que loin de moi l'intention de parler de la soumission pour amener les gens à faire ce que je voudrais qu'ils fassent. Parce que c'est le danger, ça. Moi, je crois qu'un pasteur doit communiquer la vie et non la mort. Et qu'en parlant de la soumission, on peut communiquer la mort. C'est un sujet extrêmement compliqué. Cette semaine, j'ai beaucoup réfléchi. Et il va de soi qu'il faut parler de la soumission parce que c'est un domaine où l'ennemi fait rage pour apprendre les gens à être rebelles. Mais c'est un domaine qu'il faut bien présenter pour comprendre ce que c'est que de se soumettre à Dieu. Car il y a des choses qui amènent la bénédiction et il y a des choses qui amènent la malédiction. De la même manière que la grâce apportera toujours le repos. Vous êtes d'accord? Si la grâce de Dieu est au milieu de nous, le repos de Dieu sera notre partage. C'est évident. De la même manière que la discipline, vous voyez, on parle de soumission, ça ne peut qu'amener la liberté. Ce n'est pas possible que la soumission à Dieu amène la corvée, amène la crainte. La soumission à Dieu ne peut qu'être synonyme de liberté. C'est un sujet extrêmement compliqué. Peut-être on l'abordera mardi avec les responsables, car il y a du relâchement parmi certains. Il y a certains chrétiens qui sont exactement comme ce troisième serviteur dans la parabole des talents. Certains parmi vous, vous êtes extrêmement relâchés et vous êtes vraiment spirituellement en danger. Et vous devez, je dois vous aider à vous ressaisir, car comme je viens de vous le dire, si je vous parle de la soumission, ce n'est pas, si on venait à parler de la soumission, ce n'est pas pour amener la crainte, mais c'est pour que vous soyez libre. Notre désir, ce n'est pas d'avoir les yeux fixés sur certaines disciplines qu'il faut apporter. Notre désir, c'est d'avoir tous les yeux fixés sur le Seigneur. Car je crois que ça serait un danger que de fixer les yeux sur certaines choses à faire, bien que il faille en parler. Je suis quand même soucieux, en tant que pasteur de l'Assemblée, de nous amener tous à vivre ce que Dieu veut que nous vivions. Rappelez-vous cette conclusion, vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Beaucoup de chrétiens ne sont pas heureux. Je suis profondément convaincu, je le vois par les courriels que je reçois, par le courrier que je reçois, que beaucoup de gens me disent « Ah, monsieur Gault, envoyez-moi des CD sur le repos, ce sujet m'intéresse énormément. » Et c'est vrai que c'est un sujet très 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 intéressant de vivre dans le repos. Mais Dieu ne nous donne pas le repos pour que nous devenions des paresseux, Dieu nous donne le repos pour que nous devenions utiles. Ça serait vraiment grave si vous pensiez que le repos, c'est pour vivre, eh bien, dans la paresse. Ça serait profondément grave. Jésus, donc, dans ce texte, a rassemblé les 12 pour leur dernier repas ensemble. Est-ce que c'était une belle histoire que nous venons de lire? Quelle histoire! Alors, vous avez vu que dans le même cas de figure, une pensée leur vient à l'esprit pour savoir qui était le plus grand. Ah, les pensées qui nous viennent à l'esprit. Ça vous arrive d'avoir toutes sortes de pensées qui vous viennent à l'esprit? Des bonnes et des mauvaises? Est-ce que ça vous arrive d'avoir de mauvaises pensées? Oui, ça peut arriver. Mais des pensées, il nous en vient de toutes sortes. Et là, Jésus savait ce qui se passait dans leur cœur. Comme Jésus sait exactement ce qui se passe en ce moment dans notre cœur, il n'y a que lui qui peut juger ce qui est en train de se passer dans notre cœur. Que vous soyez dans la bénédiction ou dans l'épreuve, il n'y a que Dieu qui voit ce qui se passe. Voilà, la pensée qui est venue dans leur esprit était celle-ci, parmi nous, qui sait qui est le plus grand. Est-ce que c'est important, ça? Qui sait? Pourtant, c'était des hommes choisis par le Seigneur, bénis par Dieu, mais ça vous montre combien nous sommes parfois compliqués et combien on a été mal enseignés peut-être aussi. Parce que ce genre de pensée peut venir, je ne parle pas de l'enseignement de Jésus, bien sûr, mais ce qu'ils avaient appris quand ils étaient enfants, ce qu'ils ont appris quand ils étaient adolescents. On a appris tout un tas de choses. Et il faut parfois tout corriger. Enfin, ça s'est passé avant la fin de son ministère, on l'a lu dans l'évangile de Luc. Je ne sais pas les questions que vous vous posez. Je sais que des fois, on a des questions bizarres dans la tête. Parfois, on a de mauvaises pensées. Enfin, je ne sais pas vous, mais il s'en passe des choses dans notre tête. Qui est le plus grand? Qui est le plus petit? Tiens, est-ce que c'est une pensée qui peut venir à l'esprit, ça? Je ne sais pas. Enfin, il faut comprendre le contexte. Dans Jean chapitre 13, il y a un contexte. c'est la fête de Pâques. Ils sont réunis, ils doivent prendre un repas, c'est le dernier repas. Il faut bien sûr que... Il y a la culture, dans chaque nation, il y a la culture. Et avant, ou pendant le repas, là ça s'est fait pendant le repas, mais normalement, avant le repas, on devait laver les pieds des gens, des invités. Alors, qui lave les pieds? Parce que c'est la question, ça. Qui c'est qui lave les pieds dans une maison? Les serviteurs. Oui. Ce sont les serviteurs. Ce sont les personnes dans une maison les moins importantes. C'était les esclaves de la maison. Et en réfléchissant à cette prédication presque toute la semaine, je me suis posé des questions, parce que vous savez, moi aussi, alors, j'en ai eu des pensées qui m'ont traversé l'esprit. Est-ce que Jésus a renvoyé les esclaves, les serviteurs qu'il y avait dans cette maison? Pour que cette histoire puisse vraiment se passer. Je n'en sais rien. En tous les cas, le repas allait commencer, le repas a commencé, et personne n'avait pris l'initiative de laver les pieds. Personne, puisqu'il est dit pendant le souper. Alors c'était peut-être juste au début, on va pas chercher à pinailler. Mais une chose est sûre, je pense que Jésus a attendu un peu pour savoir lequel allait se désigner pour faire cette besogne. Le Seigneur peut attendre. Est-ce que vous savez que Dieu peut nous éprouver? Que Dieu peut nous éprouver. Dieu peut permettre que certains temps passent. C'est très inquiétant parfois de voir le temps qui peut passer avant que l'on prenne la décision d'obéir à Dieu. Certains attendent quelques heures, certains attendent quelques jours, certains attendent quelques semaines, certains attendent quelques mois, certains attendent des années. Bon, la patience de Dieu est notre salut, j'en conviens, mais il n'empêche que nous avons pu perdre beaucoup de temps parce que Dieu ne nous obligera pas. J'ai dû faire arrêter des chrétiens qui ça, il y a longtemps que je ne l'ai pas entendu, mais ça m'est arrivé après les réunions ou pendant les réunions de me lever et de faire arrêter des chrétiens qui priaient, Seigneur, force-moi à faire ta volonté. Je vous rassure, Dieu ne vous forcera jamais à faire sa volonté. Donc, il fallait que quelqu'un lave les pieds. Dans une église, c'est pareil, il y a plein de choses à faire. Bien sûr, il est hors de question de nous laver les pieds. Physiquement, il n'y en a pas besoin. Quoique ça pourrait arriver qu'une grand-mère ne puisse plus se laver les pieds, est-ce qu'on pourrait aller lui laver les pieds? Est-ce que ça pourrait se présenter? Mais bien sûr, bon. Vous connaissez la suite, vous l'avez lu avec moi, c'est une histoire extraordinaire qui nous permet non pas de connaître ce que Jésus a fait, mais de comprendre ce que Jésus veut que nous fassions. Alors là, je m'adresse à chacun d'entre nous, à moi le premier bien sûr, où en sommes-nous? Parce que Jésus a pris ce linge, n'oublions pas que nous avons quand même affaire, non pas un super prophète, un grand enseignant, un rabbi merveilleux, nous avons affaire, je le dis pour les nouveaux, au Fils de Dieu. C'est quand même ce Seigneur Jésus qui a tout créé, par lui tout a été créé, les univers, les galaxies, tout, chaque fleur, chaque oiseau, tout a été créé par lui et pour lui. Et nous voyons ce Seigneur qui, voyant que personne ne se désignait, parce que ça aurait dû être le cas, mais comme eux, dans leur pensée, s'interroger pour savoir quel était le plus grand, vous comprenez bien qu'il n'était pas... Si c'était posé la question qui c'est le plus petit, peut-être ça aurait été plus facile, quoique ça n'aurait pas changé grand-chose. Mais en prenant ce linge, c'est quelque chose d'étourdissant. Et je voudrais interpeller, c'est pour ça que j'aimerais finir vers 11h20, pour qu'on ait un moment de prière, un petit moment de prière, pour aider ceux qui se sont enfermés dans la désobéissance, ceux qui se sont enfermés dans la paresse, ceux qui ressemblent à ces vierges folles qui n'ont plus d'huile. Vous êtes peut-être découragés, on n'a pas à vous juger, on a été tous amenés à passer par des moments difficiles. Donc, il est hors de question de juger. Vous avez vu, Jésus les a bénis, vous êtes purs. Pourtant, quand on voit la suite, on pourrait se dire, ils sont purs, ils vont tous l'abandonner. Ils vont le renier, il y en a un qui va le vendre. Bon, celui qui va le vendre, il est sorti des clous, excusez-moi l'expression, il a vraiment été trop loin. Parce qu'on peut, je crois, aller trop loin. Mais le Seigneur leur dit, vous êtes purs. Et pourtant, ils savaient très bien comment tous allaient se comporter. Il y a des fautes qui ne sont pas graves. On peut toujours se ressaisir, se repentir, mais il y a des choix qui peuvent nous amener très loin de Dieu. Donc, Jésus va faire quelque chose d'extraordinaire. Moi, c'est une histoire qui m'a toujours bouleversé. il prend un linge, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il devient esclave, il se fait serviteur esclave. Nous, dans toutes nos versions, monsieur Olé, je pense, ne me contredira pas, dans toutes nos versions, on a enlevé le mot esclave et on a appris à la place le mot serviteur parce que ça passe mieux dans les églises, serviteur. Mais je vous ferai remarquer que dans la version originale, c'est le mot esclave. Alors, il y a plusieurs façons de comprendre le mot esclave. Bien sûr qu'il y a le mot inhumain dedans, la pensée inhumaine qui peut ressortir. Mais il y a la pensée vraiment biblique qui nous permet de comprendre ce qu'est le service. Donc, Jésus va faire quelque chose, et puis après, il les appelle à en faire de même. Vous avez vu avec moi, verset 15, « Je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Alors, écoutez bien, mes frères et sœurs, écoutez bien. Jésus, dans ce texte, ne parle pas de grands sacrifices. Il y a des gens qui sont prêts à abandonner leur père et leur mère. Tiens donc, abandonner son père et sa mère. Est-ce que la Bible parle de cela? Est-ce que ça peut arriver que quelqu'un doive abandonner son père et sa mère pour servir Dieu? Abandonner, quitter son père et sa mère. Est-ce que ça peut arriver? Oui. Est-ce que c'est arrivé que certains chrétiens deviennent des martyrs? Bien oui, c'est arrivé. Alors ça, on parle de grands sacrifices, des gens qui ont tout abandonné. Là, on n'est pas dans le grand sacrifice, on n'est pas dans l'abandon de tout, dans le fait de devenir un martyr. Là, on est dans les choses de tous les jours. Il y a des gens qui sont prêts à quitter leur père et leur mère. Et ça donne un sentiment de renoncement extraordinaire, ce qui peut être le cas. Là, nous ne sommes pas dans ce que je pourrais appeler les grands sacrifices, nous sommes dans les choses de tous les jours. Nous sommes dans un monde compliqué, je ne vous apprends rien. Nous sommes dans un monde où les gens marchent sur les autres, écrasent les autres pour dominer, c'est devenu monnaie courante, c'est pas un problème, les gens sont capables de s'écraser pour dominer. Vous êtes d'accord avec moi? Qui détient l'autorité? Qui détient l'autorité? Encore une personne m'appelait hier et le responsable de l'église lui a dit « Je suis le patron dans l'église, c'est moi qui commande ». Vous voyez, ça vous montre un petit peu combien la mentalité du monde peut rentrer dans les assemblées. C'est quelque chose de profondément grave, quoique l'autorité existe. Il y a énormément de textes dans la Bible qui nous enseignent sur l'autorité. Est-ce que Jésus avait de l'autorité? Est-ce que Jésus a perdu son autorité parce qu'il a lavé les pieds aux apôtres? Bien sûr que non, mais c'est un autre sujet que je ne vais pas aborder ce matin, mais il y a dans la parole de Dieu énormément d'enseignements sur la soumission aux autorités. Et c'est quelque chose qui devrait être bien compris. Beaucoup de chrétiens sont dans le rouge pour la simple et unique raison qu'ils ne se soumettent pas au nom de la liberté et de tout ce que vous voudrez. C'est un autre sujet. Jésus n'a pas perdu l'autorité dans cette affaire, il ne l'a jamais perdu, quoi que ce soit qu'il ait pu faire pour servir les gens. Il enseigne un principe, il y a des principes, regardez avec moi, il y a des principes bibliques. Dans Matthieu 25, au verset 25, il faut comprendre les principes bibliques pour comprendre le service. Beaucoup de gens ne veulent plus servir parce qu'ils sont fatigués, ils en ont marre, etc. C'est pas comme ça que ça doit marcher. Regardez, Matthieu 25, c'est pas ce texte. C'est le texte où il est dit que... Où il est où ce texte? Quand il est dit, il n'en sera pas de même parmi vous que les nations... Vous savez, les maîtres des nations les tyrannisent. Vous connaissez ce texte? Voilà, les rois dominent, etc. Il n'en sera pas de même parmi vous. J'ai perdu le texte, je ne l'ai pas marqué. Voilà. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Il est en train d'expliquer dans cette affaire, Jean chapitre 13, que l'autorité, je ne sais pas si c'est important pour vous d'avoir de l'autorité, mais une chose est sûre, l'autorité ne réside pas dans un titre. Est-ce que c'est important pour vous? Moi je suis ceci, moi j'ai tel titre. Il y a des gens, c'est important. Moi je suis le responsable d'eux, j'ai telle responsabilité. L'autorité, c'est clair dans ce texte, ne réside pas dans un titre, mais elle réside dans un linge. Vous avez compris, c'est-à-dire dans un vrai service. Quand vous regardez les pharisiens et la façon dont Jésus dénonce, vous avez tous lu les évangiles et vous savez dans quel état d'esprit ils servaient Dieu. Eux, il fallait que les gens les voient. Vous rappelez, ils avaient leur récompense parce qu'ils étaient glorifiés, les gens voyaient ce qu'ils faisaient, alors eux, ça les gratifiait, voilà, c'était important pour eux. Il fallait que les autres voient leurs efforts. Est-ce que c'est important pour vous que les autres vous voient faire, que les autres voient vos efforts? quand vous regardez les pharisiens, il fallait absolument que le résultat soit mis en évidence. Est-ce que c'est important qu'on vous dise, voilà, monsieur Untel a fait ceci, a fait cela. Est-ce que c'est important le résultat? C'est une question. C'est une question d'en débattre même au conseil d'administration, parce que j'ai des questions à leur poser par rapport à cette prédication. Mais, s'il n'y a pas de résultat, c'est bien d'avoir des fruits. Du fruit. Est-ce que Dieu veut que nous portions du fruit? Oui. Bon, il faut faire la différence entre le fruit et le résultat. Les gens veulent du résultat. Le fruit, c'est important. C'est clair que si nous ne portons pas de fruit, là aussi, nous sommes en danger. Mais le résultat, s'il n'y a pas de résultat, est-ce que ça peut arriver qu'il n'y ait pas de résultat? Ben oui, ça peut arriver. S'il n'y a pas de résultat dans ma vie, si je passe un moment difficile, est-ce que je vais être rempli d'amertume? Est-ce que je vais être rempli de frustration? Ou est-ce que tout simplement, je dis, bon, ben, j'ai fait ce que j'avais à faire, je n'ai pas eu le résultat, mais ça ne fait rien. Je l'ai fait pour le Seigneur. Vous savez, il y a des pays protestants où les pasteurs prêchent, il y a des milliers de gens qui se convertissent, il y a des pays musulmans, vous avez deux musulmans qui se convertissent. Bien sûr, vous comprenez que c'est beaucoup plus facile de travailler dans un pays où tout le monde croit en Dieu et en Jésus-Christ, un pays entre guillemets protestant, qu'un pays musulman où personne ne croit en Jésus-Christ. Est-ce qu'il faut comparer les résultats? Moi, je ne crois pas. Mais nous sommes dans un monde, et les pharisiens travaillaient dans cet esprit-là. Ils avaient besoin de résultats, ils avaient besoin de voir que les autres voient leurs efforts, etc. Ils en avaient besoin. Je ne dis pas que ce n'est pas gratifiant d'être encouragé par rapport aux résultats. Mais le vrai service, parce qu'il faut parler du serviteur, mais il faut peut-être parler du service. Ce sont des choses importantes. C'est pour ça que mardi, nous reviendrons. Et je voudrais vraiment que vous fassiez un effort. Ce n'est pas mon habitude de dire « venez aux réunions ». Je sais que ce n'est pas facile de se garer, mais je crois quand même que le Seigneur nous attend. Que le Seigneur attend que des hommes et des femmes se lèvent pour servir Dieu. Vous qui prenez le baptême cet après-midi, vous ne pouvez pas concevoir de rentrer dans le royaume de Dieu sans avoir la joie et le bonheur de le servir. Le vrai service est débarrassé du besoin de calculer les résultats. Et je me posais la question, je glisse ça qui fait partie peut-être de l'Assemblée Générale, est-ce qu'il faut absolument comparer chaque année, tiens, en 2008 on a fait ci, en 2010, en 2002, voilà. Moi je ne suis pas sûr que ça soit la volonté de Dieu. Je ne suis pas sûr que ça soit la volonté de Dieu. Les pharisiens choisissaient. C'est qu'il devait servir. Est-ce que c'est à nous de choisir? Vous allez me dire oui. Mais le service, parce que c'est quelque chose de sérieux, le service. Peut-être que vous ne voulez pas être pasteur. Il y a peut-être deux ou trois jeunes qui sont appelés à être pasteurs dans l'église. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est à vous de choisir? Dire, ah non, moi je refuse. Moi je sais que j'ai refusé. J'ai refusé, je me rappelle, je vous le dis parce que c'est quelque chose, c'était important. J'avais vu tellement de jeunes pasteurs qui tiraient la langue. J'avais vu tellement de couples avec des enfants qui n'avaient pas d'argent que moi, vous savez, le Seigneur avait me pensé. J'ai dit, moi, je ne rentrerai pas dans le ministère si j'ai des gosses. Mais c'était très sérieux. Je n'avais parlé à mon épouse succinctement, mais moi, quand je voyais comment les pasteurs vivaient, en tous les cas à l'époque, certains le vivent aujourd'hui ça, j'ai dit, je ne rentrerai pas dans le ministère avec des gosses. Mais c'était clair et clair. Et puis, les années ont passé, je suis rentré dans le ministère et ma femme est tombée enceinte. Mais Dieu le savait. Je vous dis ça pourquoi? Parce que ce n'est pas à nous de choisir. Bien sûr que Dieu connaît notre caractère, etc. Il est bon le Seigneur, il est plein de tendresse. On l'a entendu dans la prophétie que le Seigneur nous rappelle constamment comment il agit de bonté. Mais, par exemple, qu'est-ce que vous préférez? Attention avant de répondre. Vous préférez servir les riches? Est-ce que Dieu peut amener un chrétien à servir les riches? S'occuper des riches. Est-ce que Dieu peut amener ce même chrétien à s'occuper des pauvres? Et on entend parfois les chrétiens dire, « Ah, moi, je veux m'occuper des pauvres. Je veux m'occuper des pauvres parce que, oui, c'est parce que Jésus a dit on ne recevait rien en retour. C'est de l'humilité ou c'est de l'orgueil? C'est une question, attention, c'est un débat. Mais ce n'est pas à nous de choisir. Moi, j'ai entendu dans des reportages à la télévision, aux actualités, et je me suis posé la question, mais pourquoi ils veulent servir les pauvres? Parce que, bien sûr que c'est beau de voir des gens qui servent les pauvres, mais je pense que c'est à nous de dire, mais Seigneur, je veux faire ce que tu veux, parce que Dieu peut nous amener à servir des pauvres, Dieu peut nous amener à nous occuper des riches également. Le vrai service ne cherche pas de distinction. Moi, je veux faire ci, moi, je veux faire ça. C'est important. Regardez quand Jésus dit à Marc chapitre 9. Regardez. Parce qu'il faut comprendre la parole de Dieu. On reprend le texte. Marc chapitre 9, verset 33. Regardez. Il faut le comprendre. Il y a des chrétiens qui se sont trompés parce qu'ils ont choisi. Bien sûr que Dieu respecte votre personnalité. Mais regardez. Marc 9, 33. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, pardon, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Est-ce que Jésus le savait ? Mais il voulait les aider à extérioriser peut-être la situation. Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les douze et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Le serviteur de tous. Mes frères et sœurs, bien sûr que peut-être que vous êtes musicien et que vous dites, moi, je me concentre sur la musique parce que Dieu m'a appelé à la musique. Mais c'est une mauvaise pensée parce que Dieu veut que nous soyons le serviteur de tous. Jésus s'est occupé des pauvres, des prostituées, des très très riches, etc., des gouverneurs. Il a été là où le Saint-Esprit le conduisait. Et la question que je dois nous poser, dans quel état d'esprit nous servons ? Ou dans quel état d'esprit allez-vous servir ? Est-ce que vous avez besoin de récompense ? Est-ce que vous avez besoin de récompense ? Est-ce que vous en avez besoin ? Le vrai service ne regarde pas à la récompense. Il y a des gens qu'on ne voit pas servir. Là, vous me voyez, je prêche le dimanche matin, tout le monde me voit. La personne qui fait le ménage, qui la voit ? Oui, bien sûr, mais personne ne la voit. Et vous croyez qu'au ciel, est-ce que ce sont les pasteurs qui auront de plus grandes récompenses parce qu'on les voit ? Est-ce que c'est la petite sœur là, qui vient le jeudi après-midi, il n'y a personne à l'église, elle fait son ménage, tiens, proportionnellement, le pasteur est vu de tous, il est entendu par des gens sur Internet, la petite femme qui est là, on ne la voit pas. Vous croyez que les récompenses, ça va être prorata ? On va avoir des surprises dans le ciel, croyez-moi. Ce qui est important, c'est le plaisir de servir. Ce qui est important, c'est de garder ce plaisir. Vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Le serviteur de tous. Est-ce que je suis prêt ? Est-ce que nous sommes prêts à être le serviteur de tous ? Vous savez, il y a vraiment une bénédiction dans le service. Et je me fais du souci pour tous ceux qui ne font plus rien. Je vous le dis, je suis votre pasteur. J'ai la responsabilité de vous aider, non pas de vous faire, de procurer la mort par un enseignement morbide et utiliser la parole de Dieu n'importe comment. Vous allez voir quand on travaillera la soumission, parce que comme je suis à mi-temps, j'ai beaucoup de temps pour méditer. Et je vous assure, c'est un sujet que je n'avais jamais, jamais, jamais développé, mais je me rends compte qu'il faut l'enseigner. Parce que beaucoup de chrétiens ne servent plus, parce qu'ils sont tombés dans le découragement, ils n'ont pas compris ce qu'était le vrai service, mais le vrai service, il ne peut que bénir. Est-ce que vous le croyez ? Le vrai service, il ne peut qu'amener la bénédiction sur les gens. Est-ce que vous voulez amener la bénédiction sur les gens ? Quand vous servez Dieu, vous devez amener la bénédiction sur les gens. Vous devez rassurer les gens. Le service dans l'église doit construire l'église et non pas la démolir. Non pas la démolir. Pourquoi certains chrétiens sont tombés ? Alors il y a le piège du diable, c'est clair qu'il a des millénaires d'expérience. Mais pourquoi certains chrétiens sont tombés dans le découragement, l'amertume ? Ah, vous voulez que je serve ? Oui, mais est-ce que les autres vont profiter de moi ? Oui, on entend ça aujourd'hui. Est-ce que vous savez qu'il y a des églises qui sont en train de réfléchir ? Comment faire pour faire le ménage ? Est-ce qu'il faut faire revenir une société ? Personne veut faire le ménage. Est-ce que vous vous rendez compte où on en arrive ? Même dans une église de 30 personnes, on doit trouver quelques personnes que Dieu appelle à pouvoir faire en sorte que l'église soit propre. C'est pour vous dire que les gens veulent bien servir, mais ne veulent pas devenir des serviteurs. C'est ça la question. Est-ce que je veux un service, celui qui me permettra pas trop d'être commandé, ou plutôt de commander ? Est-ce que je veux être un service ou est-ce que je veux un cœur de serviteur ? Est-ce que j'ai un cœur de serviteur ? Parce que c'est ça que Dieu veut. Qu'est-ce que Jésus a fait ? Qu'est-ce que Jésus a fait ? Il a montré ce qu'était un serviteur. Quand on sert et qu'on veut continuer à commander, il y a un truc qui ne va pas. Vous comprenez ce que je veux dire ? Moi, je n'accepte pas ci, moi, je n'accepte pas ça. Mais mes frères et sœurs, Je crois que quand on est serviteur, on ne cherche pas de récompense, on ne cherche pas de résultat, on fait ce qui se présente. Et quand on anticipe le fait de voir, dire « moi, je ne veux pas me faire marcher dessus, je ne suis pas une serpillière », on entend des trucs qui nous montrent vraiment que les gens veulent bien un service, parce qu'il faut un service, mais ne veulent pas devenir un serviteur. Paul dit, l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, est-ce qu'il a perdu aussi l'autorité, qu'il est l'esclave de Jésus-Christ. Il parle des esclaves, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Bien sûr que l'esclavage, il faudrait peut-être expliquer, parce que l'esclavage, on en a dit de tout, on en a dit de tout sur l'esclavage. Bien sûr que c'est, s'il est involontaire, comme dans certains pays, c'est quelque chose de cruel, c'est quelque chose d'inhumain. Mais lorsqu'il est choisi, je veux être le serviteur du Seigneur. Et je veux faire ce qu'il me demandera de faire, dans un bon état d'esprit. Regardez comment l'apôtre Paul se glorifiait d'être un esclave pour le Seigneur. Il avait tout abandonné à Jésus. Beaucoup de chrétiens, vous savez, quand j'entends, je vous le dis, c'est pas glorieux, mais quand j'entends qu'un chrétien n'est pas capable de faire un crochet de 500 mètres en voiture, « Ah mais non, vous habitez pas sur mon chemin, je peux pas vous ramener. » On l'entend ça, on l'entend. Des gens, moi, ça me fait peur. Je suis persuadé que si Jésus était présent dimanche prochain et qui demande « Est-ce que vous ne pouvez pas m'amener à Tournefeuille ?» Même si vous habitez à Castanet, je suis persuadé qu'il y en a beaucoup qui le feraient. Oui ou non? C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais, mes frères et sœurs, vous connaissez l'enseignement sur le jugement des nations. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits, etc. C'est à moi que vous l'avez fait. Parce que lorsqu'on choisit d'être un serviteur, tout change. Ce n'est pas une question de nombre, ce n'est pas une question de récompense, ce n'est pas une question d'être vu, c'est une question de cœur. Alors, la question que je dois me poser, c'est ça. Quel est le service auquel Dieu m'appelle? Vous qui prenez le baptême, vous devez absolument vous poser la question, qu'est-ce que je dois faire? Car la parole de Jésus est claire au commencement de son ministère, tu l'adoreras et tu le serviras. Qu'est-ce que je dois faire? Vous vous rappelez Dorcas? On l'a su parce qu'elle est morte, puis elle est ressuscitée, mais il nous a dit qu'elle faisait des tuniques et des manteaux pour les veuves. Bon, on l'a su. Est-ce que ça se voyait? Est-ce que ça se voit, ça, quelqu'un qui fait des... chez lui? Non, ça ne se voit pas. Mais on l'a su. Dieu a voulu qu'on sache que cette femme était une femme de valeur. Chez elle, elle cousait des tuniques, elle tricotait, j'en sais rien. Enfin, elle faisait des choses dans le secret. Est-ce que c'était bien? C'était ce que Dieu lui demandait. Le service dans l'église, est-ce que c'est important d'être de servir? Est-ce que c'est important d'être servi? Tiens donc, quand Pierre a été servi par Jésus, vous avez vu sa réaction? Qu'est-ce qu'il a dit? Jamais, c'est pas possible. Jamais tu ne me laveras les pieds. C'est pas possible. Toi, le Seigneur, tu vas pas prendre la position d'un esclave pour me laver les pieds. C'est pas possible. Parce que Pierre avait un problème avec la notion d'autorité. Parce que moi, je peux vous dire que si Pierre avait été le maître ce jour-là, je peux vous dire que Pierre n'aurait pas levé le pied des apôtres. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que vous comprenez? Puisqu'il ne comprenait pas que le maître puisse laver les pieds. Alors, ça nous amène à poser des questions. Dans quel état d'esprit était Pierre? Est-ce que c'est de l'incompréhension? Est-ce que c'est de l'orgueil? Est-ce que c'est de l'humilité? J'en sais rien. Mais une chose est sûre, s'il avait été le maître, il n'aurait lavé les pieds à personne. Mais nous devons aussi apprendre à servir. Nous devons apprendre à être servis. Est-ce que je peux vous servir, moi, dans l'église? Est-ce que je peux vous servir? Est-ce que vous acceptez que je vous serve? S'il y a un repas pour les personnes âgées, que je prenne le plateau, que je vous serve des gâteaux. Est-ce que c'est... Parce qu'une fois, c'est arrivé à un repas de personnes âgées où je vous servais des gâteaux. « Ah non, monsieur Go, vous n'allez pas nous servir des gâteaux. » Mais moi, je n'ai même pas fait gaffe. Je veux dire, c'était naturel, c'est un plaisir. Mais voyez comment les gens ont un problème avec l'autorité. Le problème, ce n'est pas une question d'autorité. Le problème, c'est une question de service. Et les gens ne comprennent pas le service. C'est pour ça que les frères qui veulent prendre des responsabilités, il faut que vous compreniez que d'abord, il faut vivre dans le service. Vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Mais chacun doit savoir à quoi Dieu l'appelle. Je parlais de politesse tout à l'heure, mais c'est le moindre des respects. Un enfant nous a dit, l'animatrice, elle me dit bonjour à l'école du dimanche. Quand je la croise dans l'église, elle ne me dit jamais bonjour. Mais voyez, mais je ne sais pas moi. Peut-être que ça peut arriver des fois d'être pris par les problèmes. Ça peut arriver. Est-ce que ça peut arriver d'être pris par les problèmes et de ne pas penser, regarder? Ça peut arriver, c'est pour ça qu'il ne faut jamais juger. Mais mes frères et sœurs, la politesse, c'est quelque chose qui devrait être inné chez un chrétien. Il y a des gens, ils ne disent pas bonjour. Ils vous disent bonjour avec la main gauche, le mouchoir dans la main, bonjour pasteur. Moi, je pense, bon, je ne sais pas, il y a des choses, je crois qu'il faut les enseigner. Alors, le service de l'hospitalité, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien l'hospitalité? Est-ce que ça peut être la volonté de Dieu que nous exercions l'hospitalité les uns avec les autres? Est-ce que c'est un verset biblique? C'est même obligatoire presque chez les dirigeants, puisqu'il est dit que les évêques doivent exercer l'hospitalité. Là aussi, il y a des églises, quand un pasteur est de passage, on est obligé de le mettre à l'hôtel parce qu'on ne trouve personne pour l'héberger. Bon. Par exemple, ici, ça ne pose pas de problème qu'on dépense 100 euros pour héberger un pasteur pendant 2 ou 3 jours. Mais moi, je me pose la question, est-ce que ce n'est pas une faille? Est-ce qu'on ne passe pas à côté de certaines choses? L'hospitalité, mais c'est aussi inviter une mamie, peut-être à manger de temps en temps, parce qu'elle est toute seule. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Ou est-ce que vous n'avez pas le temps? Vous avez compris ma question quand même. Le service d'écouter. Écouter quelqu'un, il n'y a pas besoin d'être un psychanalyste pour écouter quelqu'un. Est-ce que c'est bien d'écouter quelqu'un qui souffre? D'aller à l'hôpital et de l'écouter? Est-ce que c'est bien? Il y a peut-être besoin d'amour et de patience. Parce que c'est arrivé, moi je l'ai entendu, on me l'a rapporté. Quelqu'un parle de ses souffrances, parce qu'on a des souffrances, on a besoin de les exprimer. Voilà ce que je traverse, voilà les examens que je suis en train de subir, voilà ce que le docteur m'a dit. Oh, mais écoute, t'es pas la seule, hein? Moi aussi j'ai mes problèmes. Et ouais, ça vous fait rire parce que c'est marrant, mais c'est grave. Parce que je crois qu'un chrétien, il peut demander au Seigneur, donne-moi d'aimer la personne et donne-moi de la patience pour les écouter. Parce que vous savez, on fait du bien en écoutant les gens. Ça m'est arrivé, moi, de faire des visites et d'écouter les personnes, parce qu'il y a des personnes qui parlent. Elles parlent, vous allez avoir une heure, elles parlent pendant une heure. Et à la fin, oh, merci Gérard, tu m'as fait beaucoup de bien. Puis dans la voix, tu dis, mais qu'est-ce que t'as dit? Mais j'avais plus rien dire. C'était le fait de les avoir écoutés, de les avoir vraiment écoutés. Et je crois que, comme je le dis, il n'y a pas besoin d'être un grand psychologue ou suivre une formation de psychanalyste. Seigneur, donne-moi de l'amour et donne-moi de la patience. Le service de porter les fardeaux les uns les autres. Tiens donc, je termine avec ça, parce que je vois que le retourne. Porter les fardeaux les uns les autres. Est-ce que c'est écrit? On le lit, Galates 6:2. Parce que ça aussi, le diable utilise la fatigue pour qu'on transgresse ce commandement. Dans Galates, chapitre 6, regardez avec moi. C'est très, très, très sérieux. Parce que ça fait partie de ces instructions de Jésus. Rappelez-vous, prenez mon joug et vous trouverez le repos. Et si vous êtes toujours agité et fatigué, c'est qu'il y a certainement, peut-être que c'est autre chose. On y viendra. Galates, chapitre 6, verset 2. C'est un commandement, c'est une instruction. Portez les fardeaux les uns des autres. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Vous êtes d'accord? Bon, j'espère que vous êtes d'accord. Mais vous vous rappelez donc de cette parole de Jésus? Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. La loi de l'amour, c'est la voie royale. Ainsi, vous accomplirez la loi de Christ. L'amour s'accomplit lorsqu'on porte les fardeaux, lorsqu'on prie pour les soldats du Mali. Est-ce que c'est bien? Ben oui. Est-ce qu'on, quand on prie pour les persécutés, est-ce que c'est ça que Dieu demande? Oui, Dieu le demande. Dieu, n'oubliez pas les prisonniers. Lorsqu'on porte les fardeaux, les blessures, parce que les fardeaux, c'est quoi? C'est les blessures, c'est les souffrances, c'est les grosses difficultés. Et nous devons dire, je prie pour toi. Prie pour moi, j'en ai besoin. Mais nous devons prier les uns pour les autres. Nous devons apprendre, ça s'apprend, pleurer avec ceux qui pleurent. Bon, vous savez, ça m'est arrivé dans la même après-midi d'aller voir quelqu'un qui est dans le deuil et de devoir pleurer avec quelqu'un qui pleure. Et dans la même après-midi, d'aller voir une maman qui vient d'accoucher et qui se réjouit d'avoir un petit bébé et apprendre à pleurer avec ceux qui pleurent, apprendre à se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Vous voyez, ce sont des choses qui s'apprennent. Ne croyez pas que ça va vous tomber dessus comme ça. Ça s'apprend en priant. On peut porter les fardeaux et se laisser détruire par les fardeaux. Moi, il y a des gens qui disent, ah, monsieur Gaulle, les fardeaux, je ne veux plus apporter. Je suis écrasé par les fardeaux des autres. Moi, j'en ai assez avec les miens. Jésus, tiens donc, prenons les meilleurs exemples. Jésus a porté les fardeaux du monde entier. Oui ou non? Il a porté les fardeaux du monde entier. Et il a dit, mon joug est doux et mon fardeau léger. Car Dieu ne nous demande pas de porter des fardeaux. pour qu'on soit surchargé. Dieu nous demande de porter les fardeaux pour qu'on les dépose. Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Alors, ce fardeau, alors il y a des gens qui ne comprennent rien. Mais en vérité, ça entretient notre communion, notre ferveur. Quand on prie pour les filles de la rue, voilà, on prie, ça entretient une communion, ça entretient un combat. Et bien sûr qu'il ne faut pas le prendre sur soi. C'est pour ça que des chrétiens sont découragés. Il faut prendre un fardeau, dire « Seigneur, je le dépose ». Une sœur me disait cette semaine « Mais c'est venu 50 fois, 200 fois ». Eh bien, j'ai dit 50 fois, 200 fois. Vous le déposez au pied du Seigneur. C'est ça que le Seigneur nous demande. Jésus, à la croix, a porté les fardeaux du monde entier. Et ce même Seigneur a dit « Mon joug est doux et mon fardeau léger ». Et là, je termine vraiment avec cette pensée. Vous avez vu avec moi Jean chapitre 13, verset 1er, il nous est dit que Jésus a mis le comble à son amour pour eux. Vous l'avez lu avec moi ? Jésus a mis le comble à son amour pour eux. Alors hier, en préparant la prédication, je me dis, mais si moi j'avais dû dire, quand est-ce que Jésus a mis le comble à son amour ? J'aurais dit, comme vous, c'est à la croix. Oui ou non ? Vous êtes d'accord ? Le Saint-Esprit s'est-il trompé ? Est-ce que c'est vrai? Franchement, le comble à son amour, pour nous, il n'y a pas photo, c'est à la croix. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Le Saint-Esprit ne s'est pas trompé, vous le savez. Qu'est-ce que ça veut dire? Que, dans l'enseignement, il faut comprendre cette pensée. C'est que son amour s'est manifesté aussi dans les petites choses. Et il y a des plein de petites choses. Je parlais des grands sacrifices, c'est bien. Pour le moment, parlons pas de grands sacrifices. Dans l'Église du Seigneur, parlons des toutes petites choses. On parlait du ménage, on parlait des enfants. Les enfants, il y a des églises, il n'y a plus d'école du dimanche parce qu'il n'y a plus d'animateurs. Moi, les enfants, ils m'énervent. C'est ce qu'on entend. Mais ce n'est pas à savoir si vous énervez ou pas. Les enfants, à peu près, énervent tout le monde. Ce qu'il faut savoir... Pourquoi vous riez? Hein? À certains moments. Des fois, il est fatigué, c'est clair. J'en ai eu quatre, je sais de quoi je parle. J'en ai eu quatre et il y a eu le cas dans les quatre. Alors laissez-moi vous dire que je sais de quoi je parle. Mais est-ce que c'est à nous de choisir? Peut-être que Dieu veut que vous soyez pasteur. Tiens, mais peut-être que c'est les ados qu'il vous faudra d'abord vous occuper. C'est pas à vous de commander. Nous, on peut vous aider, vous orienter. Moi, je suis pas là pour commander. Je suis là pour partager la pensée du Seigneur. Mais mes frères et sœurs, le ménage, c'est peut-être ce à quoi Dieu vous appelle. Et puis, c'est pas du tout un déshonneur que de faire le ménage. Peut-être que Dieu dit, mais c'est vrai, c'est ce à quoi tu m'appelles, Seigneur. Oh, Dieu m'appelle à faire le ménage. Moi, qui suis femme d'affaires, en Polynésie, il y avait une femme, mais super, il y avait deux femmes, super riches dans l'église. Elles avaient des femmes de ménage, elles avaient tout ce qu'il fallait, tout, et elles faisaient le ménage à l'église. Elles disent, parce que Dieu nous l'a demandé. Et des fois, elles venaient avec leur femme de ménage parce que oh, j'en ai marre aujourd'hui, je veux que ça aille plus vite. Mais moi, j'ai apprécié ces deux sœurs. C'était deux femmes vraiment riches et elles venaient faire le ménage à l'église alors que chez elles, quand on allait les visiter, il y avait des femmes de ménage partout. Mais qui sait si Dieu ne les a pas éprouvées à ces deux sœurs? Vous voyez? Alors on pourrait multiplier les exemples. On poursuivra le mardi la chorale. Peut-être que Dieu vous appelle à chanter la chorale. C'est un service. Vous ne vous êtes pas fait du bien ce matin en écoutant ces deux chants? Cet après-midi, on va rechanter. Ils vont rechanter sur la croix. Il y a des pécheurs. Peut-être que le pécheur va être touché éternellement à cause de ce cantique sur la croix. Pourquoi? Eh bien parce que Jonathan a cœur de trouver des frères et des sœurs. Il y a des églises, il n'y a plus de chorale parce que personne ne veut chanter. Parce qu'il faut, il faut se consacrer. Mais parce que les gens veulent un service, mais ils ne sont pas serviteurs. Quand vous êtes serviteur, vous êtes disponible tout le temps. L'accueil, la préparation de la Sainte-Cène, l'accueil des nouveaux. Est-ce que c'est important pour vous tout à l'heure? Tiens, de dire, ah, cette jeune fille, elle est toute nouvelle. Soyez la bienvenue. Comment vous appelez-vous? Leslie, soyez la bienvenue, Leslie. Hein? L'évangélisation, l'entraide. Est-ce que c'est important, l'entraide? J'ai pris un papier, le papier, la MET. Vous connaissez la MET? Qui ne connaît pas la MET? La MET, c'est l'action missionnaire timbre. Mais il y a un document, Madame Blanc, fera un compte rendu à l'Assemblée Générale. On a fait 200 ou 300 photocopies. Tous les timbres récupérés, les timbres, ça coûte, ça vaut quoi? Une fois qu'ils sont oblitérés, ça ne vaut même pas un centime d'euro. si vous saviez tout ce qui est fait par l'action missionnaire timbre, à peu près chaque année, il y a 35 à 52 000 euros avec les timbres qui sont vendus par un frère qui a eu à cœur de les collecter. Le travail qu'ils font avec l'action missionnaire timbre, ce sont des plein de petites choses. J'y reviens, je ne suis pas dans les grands sacrifices. Mais peut-être qu'il faut que tous les chrétiens se posent sérieusement la question. Seigneur, parce que vous, moi je vous le dis, hein, certains quand vous allez passer devant Dieu, ça va aller très mal. Je vous le dis, je suis votre pasteur, vous le prenez comme vous le voulez, j'aimerais que vous le preniez bien. Mais mes frères et sœurs, vous entendez la vérité, ce n'est pas ma prédication. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Le plaisir que nous avons, à cause des offrandes, de former des serviteurs de Dieu, est-ce que ce n'est pas une bénédiction dans l'Église? Un dimanche, allez à Rodez et regardez le travail qu'accomplit Nathanaël à Decazeville, à Villefranche, à Rodez. Et vous allez vous dire, mais ça vaut la peine de former des serviteurs de Dieu, de donner de son argent. C'est vrai que l'argent, c'est un sujet. Mais si le Saint-Esprit nous y conduit, il faudra peut-être un jour en parler. Les réunions de prière, est-ce que c'est biblique les réunions de prière? De venir et de combattre le bon combat. Je sais qu'il y a une épreuve avant la réunion de prière, c'est de pouvoir se garer. Je sais que c'est une épreuve. Mais franchement, est-ce que ce n'est pas ce à quoi Dieu appelle les chrétiens, de porter le fardeau des âmes? Vous avez le fardeau des âmes? Moi, des fois, je discute avec des chrétiens, ça m'est arrivé d'avoir envie de pleurer, bon, de me contenir. Ah, le fardeau des âmes, moi, je ne sais pas ce que c'est. Moi, je suis convaincu pourtant que lorsque quelqu'un se convertit, il n'a envie que d'une chose, c'est que les autres se convertissent. Quelqu'un qui n'a pas le fardeau des âmes, pour moi, il s'est profondément refroidi. On doit avoir le fardeau des âmes. Alors on pourrait multiplier, mais comme l'heure tourne, je termine avec une question. Seigneur, prochainement, demain, amène-moi quelqu'un que je pourrais servir. Montre-moi dans la prière la mémé que je dois inviter peut-être. Il y a des mémés qui sont seuls toute la semaine. Est-ce que ça ne vaut pas la peine d'inviter une grand-mère à partager trois pommes de terre? Elles s'en fichent, les mémés des pommes de terre ou du repas. Elles ont envie de communion fraternelle. Est-ce que ça ne vaut pas la peine? Mais demandez à Jésus. C'est pour ça que j'ai commencé à vous parler de soumission. Je pourrais, vous savez, quand même, ça fait 30 ans que je presse, je pense que je pourrais, c'est grave ce que je vais dire, mais je pourrais vous manipuler. Vous avez compris ce que je voulais dire? Je pourrais vous obliger. Mais ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Ça doit se passer avec le cœur. Je veux un cœur de serviteur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelle est la personne dont je dois m'occuper? Tu m'as donné une voiture. Merci Seigneur. Quelle est la personne âgée qui pourrait venir à l'église? Que je pourrais amener? Et mille et une choses. Je ne parle pas, je l'ai dit, de grands sacrifices. Mes frères et sœurs, nous vivons des temps difficiles. Mais l'église, comme a dit Jérémie, elle est dans la lumière. Elle est dans la lumière. Et les chrétiens qui vivent dans la lumière, ils sont éclairés. Alors, On va chanter un cantique pour terminer. Mais avant, j'aimerais qu'on prie. On ferme les yeux tous. On ferme les yeux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent concerné? C'est entre vous et Dieu. C'est sérieux. Ça peut être très grave parce que vous êtes en danger. Mais la foi sans les œuvres, elle est morte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait que je prie pour lui? Quelqu'un qui dit, oui, c'était pour moi cette prédication. Oui, je fais, mais je sers, mais j'ai plus envie de commander que d'être un serviteur. Eh bien, levez-vous à votre place, tout simplement. Et dites, Seigneur, je veux faire ce que tu me demandes. Il y a certainement une personne pour qui cette prédication correspondait. Je voudrais vous aider. Je voudrais nous aider à devenir de meilleurs serviteurs. Y a-t-il quelqu'un qui veut se lever? Qui dit, oui, c'était pour moi. Je suis sérieux. J'ai besoin, Seigneur, que tu me touches. Alors je vais prier pour vous. Soyez vrais. Ne vous inquiétez pas de celui qui est assis à côté de vous. Ne vous inquiétez pas. Je vais prier. C'est très, très, très important. Notre Père, tu nous as appelés à te servir. Et au-delà du service, tu veux que nous ayons ce cœur de serviteur. Et je te prie, Seigneur, pour cette assemblée. Je te prie pour que tous les chrétiens, tous ceux qui t'ont donné leur cœur, puissent devenir des serviteurs et des servantes. Tu vois, Seigneur, les bien-aimés qui vont témoigner cet après-midi de leur engagement, qu'ils soient des serviteurs ou des servantes. Mais vraiment, la joie, le bonheur de te servir. Seigneur, c'est notre prière. Montre-nous à chacun ce à quoi tu nous appelles. Tu vois la liste des choses à faire. Seigneur, toi-même conduis-nous afin que ta volonté soit faite et que ton nom soit béni. Merci Seigneur Jésus. Amen.